Quelles sont les prières que Dieu exauce? C'est une question aussi importante que difficile. C'est notre réponse qui importe, surtout parce qu'elle dit réellement quelle est notre vision de Dieu, de sa bonté. Ce n'est pas la peine d'en faire un distributeur ou même un Père Noël. Mais également sa puissance, sa réelle toute-puissance, qui peut nous apparaître, qui apparaît à certains, peut-être sélective, en tout cas contestable, lorsque nos prières ne sont pas exaucées ou n'ont pas été exaucées. Nous avons tous fait cette expérience de prières qui n'ont pas été exaucées. Pourquoi? Quelles sont donc les prières que Dieu exauce? Pour essayer d'y répondre, je voudrais avec vous entrer d'abord dans cette parabole. Cette parabole sur la nécessité de toujours prier sans se décourager, et entrer en nous demandant d'abord, qui est l'adversaire de cette veuve? C'est le point de départ. Ils sont trois, ils ne sont pas deux, ils sont trois. Il y a le juge, un juge indigne, qui ne craint pas Dieu et qui ne respecte pas les hommes. Il y a la plaignante, une veuve, et puis il y a son adversaire. Qui est-il? On n'en sait rien, le texte ne le dit pas. Ce qu'on peut dire, à la fin et au vu du résultat final, c'est qu'il n'a pas été prudent. Et même d'une certaine façon, c'est qu'à la différence de cette femme, il ne croyait sans doute pas à la justice. Il était face à une veuve, un symbole bien sûr, le symbole à l'époque de la faiblesse, de la personne seule dont on pouvait abuser, d'une situation qui lui était certainement favorable. Et il est important de le présenter ainsi pour pouvoir rappeler et reconnaître les quatre vertus qu'on dit cardinales. La justice, la prudence, la force, la tempérance. Elles vont même deux par deux, justice et prudence, force et tempérance. Ce sont des critères pour notre vie de prière, aussi bien que pour notre vie morale, pour mener une vie droite. L'adversaire par excellence, c'est-à-dire le diable. Le diable n'a de cesse de les brouiller, et en particulier de séparer la justice de la prudence. C'est ce qu'on vit sans cesse, pas particulièrement aujourd'hui, c'est toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on voit particulièrement aujourd'hui dans les lois de bioéthique, mais également dans beaucoup de débats sur l'accueil des migrants. Tous ces changements de notre époque, tous ces changements qui prétendent vouloir être justes, mais qui ne sont pas prudents. La prudence, elle est prévoyante. La prudence va bien au-delà de la précaution qui prend garde. On peut dire que la précaution, c'est surtout pour soi, comme dit l'expression « on prend ses précautions », tandis que la prudence relève du bien commun. Prudence et précaution n'ont pas la même échelle de temps. Et c'est très important dans la question de la justice. Même si Jésus promet une réponse rapide. Le temps de la justice, nous le savons bien, ce n'est pas celui de la vie présente. Et on oppose très souvent la justice de Dieu à celle des hommes. En imaginant, pour beaucoup d'entre nous, c'est toute la dérive qu'on a depuis un certain temps sur la question de la miséricorde, en imaginant que la justice de Dieu sera plus clémente que celle des hommes. Mais pourquoi la justice de Dieu serait-elle plus clémente que celle des hommes? Dieu a horreur du péché. Le péché est totalement incompatible avec la vie divine. Dieu a horreur du péché et Dieu vomit les tièdes qui s'en accommodent. À l'image de ce juge, de tous ceux qui ne le craignent pas, qui ne l'adorent pas, qui ne l'espèrent pas et qui n'ont pas plus de respect pour leurs frères. La volonté de Dieu, c'est notre prière de tous les jours, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, plus encore que nous l'aimions, c'est que nous l'adorions. C'est un terme qui lui est réservé, l'adorer. L'adorer, c'est la volonté de Dieu, que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père, dit Jésus à la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean. Et nous, nous parlons vaguement de croyants, avec un mot de croyant qui est quand même largement vidé de son sens. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il ses adorateurs que recherche le Père? C'est la question à nous poser, de savoir si nous sommes de vrais adorateurs, qui rendons visible, qui rendons concrète notre foi, qui la mettons en acte. L'adoration, vous savez, on dit l'adoration du Saint-Sacrement, heureusement qu'elle a été mise à l'honneur d'un nombre de communautés, de paroisses. C'est la poursuite de la prière en dehors de la messe. Elle a pour fonction de rendre visible notre foi, de la nourrir, de rendre réelle notre adoration du Christ. Alors on le fait dans l'Église, mais pour le monde. L'adoration du Saint-Sacrement, c'est prendre du temps pour contempler l'hostie, pour apprendre à voir Dieu en nos frères. C'est ça le mouvement de l'adoration. Contempler Dieu en l'hostie pour apprendre à voir Dieu en nos frères. Adorer Dieu, c'est une affaire de justice, c'est juste. Et c'est prudent. C'est prudent parce que ça se terminera comme ça. Ça sera notre rencontre au dernier jour avec le Seigneur. Je vous propose de vous relire la fin de la guérison de l'aveugle-né dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 11. Il avait été guéri par Jésus. Jésus apprend qu'il avait été jeté dehors. Il le retrouve et lui dit, « Est-ce que tu crois au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Voilà ce que sera notre rencontre au dernier jour. Est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Tu le vois, c'est lui qui te parle. Puissions-nous à ce moment-là dire exactement la même chose? Je crois, Seigneur, et nous prosterner devant lui. L'adorer. Le diable, l'adversaire, veut nous faire croire que ce qui est sans conséquence aujourd'hui, le sera également demain. C'est le mauvais génie de l'impunité, du sentiment d'impunité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment il peut y avoir autant de personnes que l'injustice ne choque pas. Bon, c'est la vie. Que le mensonge ne gêne pas. Bon, tout le monde le fait. Plutôt que de dire parfois « vous n'avez pas honte », on devrait dire « mais vous n'avez pas peur ? Vous n'avez pas peur de tricher, de mentir, de voler, de tromper ?» Le diable sépare la justice de la prudence et il sépare également la force de la tempérance. Aujourd'hui, on parle sans cesse de manque de confiance en soi, alors que, objectivement, quand on regarde autour de nous, c'est plutôt le phénomène inverse qui prédomine. Vu tous ceux qui préjugent, qui abusent de leur force, de leur capacité, qui abusent de leur autonomie, de leur indépendance. Soyez sobres. Soyez sobres, dit la première lettre de Saint-Pierre. Veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion qui rugit, rôde. Il cherche qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes épreuves, aux mêmes souffrances. Quelles sont les prières que Dieu exauce? Celles qui nous réunissent, comme ce matin. Celles que nous faisons ensemble, que nous portons en commun, dans nos assemblées. Celles que nous partageons, qui nous relient les uns aux autres, autant qu'elles nous relient à Dieu. C'est le sens étymologique le plus probable de la religion. Ce qui nous relie à Dieu et ce qui nous relie les uns aux autres. Dans cette parabole, ils sont trois. Le premier, le juge, ne vit que pour lui-même. Alors que la fonction originelle du juge, vous relirez le livre des juges dans l'Ancien Testament, c'est de concilier. C'est pas de trancher, c'est d'accorder, c'est d'unir. La veuve, elle est seule. Et l'adversaire accroît sa solitude, son sentiment de faiblesse, mais il la pousse aussi à demander de l'aide, à crier justice. Quelles sont les prières que Dieu exauce? Elles ne peuvent pas, ces prières. Elles ne peuvent pas, s'il est juste, s'il est vraiment Dieu, et Jésus est le seul juste, elles ne peuvent pas être la seule défense de nos intérêts, ni la satisfaction de nos besoins. Nous prions Dieu pour demander la santé, la sécurité, l'argent, tant de choses. Mais pour les autres plus que pour nous. Pour les autres, c'est ce que les anciens disaient depuis le début. Que chacun prie pour les autres plutôt que pour soi. La prière de la veuve, elle a été exaucée parce qu'elle demandait que justice soit faite. C'est pas forcément la même chose que ses intérêts soient défendus. Ne séparons pas la justice de la prudence pour ne pas confondre la justice et nos intérêts particuliers. Une jeune fille de 13 ans ne supportait pas la relation amoureuse de sa mère avec un nouveau compagnon. Elle a prié pour qu'il meure. Et il est tombé gravement malade. Vous imaginez sa détresse? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a fait penser à cette femme qui était arrivée dans un service de soins palliatifs et qui répétait qu'elle voulait mourir. On l'avait installée dans sa chambre, mise sous perfusion, et puis à un moment, l'infirmière injecte un produit et elle imagine que c'est sa demande a été exaucée, que c'est, ça y est, c'est la dernière piqûre, c'est le produit létal. Et elle se met à crier, tu dis, non, 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 je veux plus, je veux plus. Fais attention à ce qu'on dit. Elle a retrouvé la paix parce qu'elle a été entourée, parce que sa souffrance a été prise en compte. Et le moment venu, elle s'est éteinte sans violence. La jeune fille, elle, a demandé pardon au Seigneur. L'homme a été guéri. Il s'est même converti. Il a retrouvé le chemin de la foi et de l'Église. Quelles sont les prières que Dieu exauce? Ce ne sont pas tant des prières qui concernent des biens corporels, des biens matériels ou même spirituels. Ce ne sont pas tant des prières qui concernent des personnes, les personnes que nous aimons ou que nous voudrions aimer. Ce sont toujours des prières qui concernent nos relations les uns avec les autres et nos relations avec le Seigneur. Il faut que nous raisonnions de façon davantage chrétienne. En fonction de nos relations, plus que de personnes qui existeraient de façon autonome, indépendante, les relations entre nous, les relations avec le Seigneur, ce juge, il était effectivement indigne. Mais par sa relation à Dieu qu'il ne craignait pas, par sa relation aux autres qu'il ne respectait pas. Et il a fini par écouter les prières de cette femme, dans laquelle la tradition a toujours reconnu l'Église, l'épouse fidèle du Christ. Alors ces jours-ci, je vous invite à vous poser la question, pourquoi priez-vous? Pour vos intérêts ou pour la justice? Pour la satisfaction de besoins, certainement réels, ou la conversion de nos frères? Notre conversion et celle de nos frères.